RTL Original Podcast.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bulle Immo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Constance Heutebrook, chercheuse au LISER. Merci d'avoir pris le temps de venir en studio.
Merci à vous pour l'invitation.
Vous allez bien ?
Ça va bien, merci.
Voilà, je m'excuse déjà en avance à nos auditeurs pour cette voix un peu caverneuse. C'est les virus de l'automne qui font leur caprice. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour discuter du co-living. C'est une question à laquelle vous êtes intéressé depuis un moment. 2 ans, si je ne me trompe pas.
Oui, ça fait 2 ans que je suis au Luxembourg, en tout cas.
Ouais. Et donc, est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, alors le co-living, c'est un produit locatif flexible qui s'est développé sur le marché privé dans différents contextes et également au Luxembourg. Et il a pour point commun avec d'autres produits locatifs flexibles qu'il s'agit d'une offre institutionnalisée au sens où elle est gérée par des sociétés professionnelles spécialisées qui vont offrir une expérience sans tracas à des personnes en situation de transition et au moyen d'une intermédiation digitale, donc de plateforme concrètement. Et donc, pour le cas précis du co-living, il s'agit de chambres meublées qui sont gérées par ces sociétés et où chaque occupant reçoit un bail individuel. Ils partagent des espaces communs, typiquement séjour, cuisine, parfois la salle de bain aussi quand elle n'est pas privative, avec d'autres occupants. Et la société gestionnaire offre aussi en général toute une série de services qui vont du simple nettoyage des communs à l'organisation d'événements pour la communauté par exemple.
Donc ça m'amène directement à ma prochaine question. Quelle distinction on peut faire ou faut-il faire par rapport à la colocation ? Parce que quand vous parlez du co-living comme ça, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on connaît déjà au Luxembourg avec la colocation.
Oui, alors je dirais qu'il y a 2 distinctions importantes. La première, c'est vraiment sur le plan purement contractuel, la question du bail. De la même manière, sur le marché traditionnel des chambres meublées, chaque occupant d'une chambre reçoit un bail individuel, tandis que dans le cas d'une colocation, les occupants sont liés par un pacte de colocation et ont un bail commun. Donc ça, c'est une première distinction. La deuxième distinction, c'est vraiment cette intervention de l'acteur intermédiaire de la société de co-living qui va s'occuper de la gestion des locataires, qui va faire une espèce de gestion locative plus, si vous voulez, en sélectionnant, en gérant les locataires, en offrant ses services, etc.
Et au niveau du turnover, parce que dans la colocation, ça peut tourner très vite, 6 mois, 3 mois, 2 mois, enfin, généralement au Luxembourg, on connaît plutôt dans la location les contrats de 1, 2, 3 ans, mais là, effectivement, c'est vraiment de la courte durée.
Oui, ce n'est pas de la, pas forcément en tout cas de la très courte durée au sens où on n'est pas nécessairement sur des séjours à partir de quelques nuits, bien qu'il y a des sociétés de co-living qui souhaitent, en leur nom propre ou via des collaborations, louent des chambres pour de la très courte durée. Maintenant, la plupart des sociétés de co-living présentes au Luxembourg, elles vont offrir des contrats de quelques mois, par exemple 3 mois et plus, 6 mois et plus. Mais de fait, on a un turnover qui est quand même plus important que sur le marché locatif privé traditionnel, je dirais.
Alors, le co-living s'installe progressivement au Luxembourg. Je me suis un petit peu intéressé à la présentation que vous aviez partagée avec moi. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y a quelques acteurs qui sont installés, mais là, ces 2-3 dernières années, ça s'est un peu accéléré. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec plusieurs acteurs qui développent ce concept au Grand-Duché. Quelles sont vos premières constatations ?
Moi, je me suis intéressée, en fait, à vraiment l'émergence du phénomène au sens qu'est-ce qui a permis au co-living d'émerger au Luxembourg et, soit dit en passant, plus tard que dans d'autres contextes européens, que dans des grandes villes comme Paris, Londres ou Berlin. Donc, qu'est-ce qui a permis au segment d'émerger et aussi quelles sont les stratégies de ces acteurs. Et alors, dans un deuxième temps du projet de recherche sur lequel je travaille, je m'intéresserai aussi à la perspective d'autres acteurs qui soutiennent dans une certaine mesure ou pas le développement de ce segment. Et alors, sur vraiment l'analyse des acteurs et de leurs stratégies, dans un tout premier temps, j'essaie de mieux comprendre quels sont un peu leurs business models. Est-ce qu'ils sont propriétaires des unités qu'ils gèrent ou est-ce qu'ils sont juste exploitants. De ce point de vue-là, Il y a quelques acteurs qui sont propriétaires et exploitants, mais de plus en plus, on va vers des structures très légères, purement opérationnelles, qui, soit vont elles-mêmes prendre un bail de longue durée avec le propriétaire et assurer un loyer, un peu comme une société de gestion locative classique le ferait, ou alors qu'ils prennent un pourcentage sur le loyer. Mmh. Ça peut être jusqu'à 7-8% par exemple. Donc voilà, je me suis dans un premier temps intéressée un peu à leur modèle, à la manière dont elles opèrent, et puis alors sur le point de vue de la stratégie, avec notamment Antoine Pacou qui est le co-auteur d'un article qu'on a écrit sur le sujet, mais qui est toujours en cours. On a essayé d'identifier dans leur discours voilà, vraiment des éléments qui ressortent en termes de stratégie, et on a pu mettre trois éléments de stratégie en avant. Mmh. Un premier élément, c'est cette idée d'amener une réponse à un besoin qui serait inévitable et qui presque s'imposerait à nous, en proposant une solution dans un marché locatif privé qui serait dysfonctionnel, une solution abordable, accessible et de qualité. Un deuxième élément de stratégie, c'est la volonté de se positionner comme un partenaire inévitable, en particulier dans des développements neufs, où la société de co-living permet, en jouant le rôle d'intermédiaire, de créer un écosystème promoteur, investisseur, exploitant. D'autant plus que si on regarde l'évolution du secteur sur le temps long, pas seulement au Luxembourg, mais aussi dans d'autres contextes, on passe de plus en plus d'un marché où on avait traditionnellement des grands biens de rapport, des grandes maisons qui étaient divisées en chambres et gérées par des sociétés de co-living, vers un secteur qui se développe dans le neuf avec des logiques dites build to rent. On peut revenir plus tard si vous le souhaitez. Et alors un troisième élément de stratégie qu'on a analysé, c'est la combinaison de différents types de produits, et c'est en partie pour ça que je m'intéresse aussi à la location de courte durée, afin que ce soit au niveau de la durée du type de location, mais aussi au niveau de la durée, enfin de la localisation, pardon. Mmh. Ce qui permet de pousser un cran plus loin la mobilité interne des occupants au sein du portefeuille de sa société. Mmh. Et aussi d'optimiser la rentabilité en diminuant la vacance possible au sein du portefeuille. Donc ça, c'est vraiment trois éléments de stratégie sur lesquels on a travaillé pour le moment.
Bah, les éléments de stratégie que vous venez d'évoquer, ça me fait juste... pour moi, le constat, c'est qu'ils ont déjà bien étudié le marché luxembourgeois. C'est-à-dire que le marché luxembourgeois se retrouve aujourd'hui dans une situation assez assez précaire. C'est-à-dire qu'on ne construit plus beaucoup de logements. Le marché de la location, jusqu'à il y a quelques mois, les loyers étaient en train d'augmenter, etc. Donc je pense que leur stratégie répond un petit peu, du moins, s'annonce comme une réponse au problème du logement au Luxembourg. Mais après, je pense que c'est un petit peu le cas de n'importe quel développeur promoteur qui veut arriver et imposer un concept, un nouveau concept. Dans tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, il y a une question qui, je pense, intéresserait pas mal de gens. Je pense que c'est un petit peu évident, mais quelles sont les personnes qui sont ciblées par cette offre?
Oui,
c'est des jeunes professionnels?
C'est un public cible assez précis. Et ça, je dirais que c'est une spécificité aussi d'ailleurs du co-living par rapport à un marché plus traditionnel de location par chambre ou de colocation. Et de fait, en particulier, le co-living va viser des jeunes actifs ou jeunes professionnels, donc typiquement des travailleurs mobiles et hautement qualifiés des secteurs de l'économie créative et de la connaissance. Et oui, dont on estime qu'ils doivent être ultra mobiles pour leur carrière et à qui on va offrir cette situation de transition.
Ouais. J'en profite pour noter, hein, c'est effectivement un des problèmes que le marché du travail luxembourgeois rencontre maintenant depuis 5-6 ans, c'est-à-dire les loyers et les prix du logement posent problème pour faire venir ce qu'on appelle des talents. Alors maintenant, est-ce qu'on parle vraiment de la même cible, parce que les talents, généralement, c'est des c'est des recrues qu'on fait venir de loin, hein, qui ont des salaires un petit peu plus élevés, qui n'ont pas forcément besoin de partager des pièces communes. Mais j'ai une autre question d'ailleurs, avant que j'oublie, parce que vous avez abordé la question de l'abordabilité de ce modèle. Vous avez un petit peu étudié les prix qui se pratiquaient, est-ce que ça donnait par rapport au marché normal de chambres meublées et de colocation?
Oui. Donc on a fait un premier exercice d'estimation de loyer par mètre carré l'année dernière. Et cet exercice-là a été fait sur base de l'extraction de données des plateformes des acteurs. Mmh. C'était une volonté de partir des acteurs implantés au Luxembourg, locaux et internationaux, et de leur propre plateforme pour notamment éviter les doublons. Cette information n'était pas toujours disponible. Aussi, le portefeuille des sociétés n'est pas toujours... Enfin, il n'y a pas toujours une vue exhaustive, même en faisant une extraction de données du portefeuille des sociétés. Mais toujours est-il que, sur base de cette première estimation, on a quand même pu constater que, bah, de manière assez... je veux dire, c'est pas une grande surprise, je pense, les loyers par mètre carré sont généralement plus élevés que sur le marché locatif traditionnel, d'autant plus pour des petites surfaces, donc des chambres et des petites chambres, et encore plus s'il y a une offre de courte durée. Où là, évidemment, bah, la question du loyer mensuel par mètre carré, elle est surtout intéressante pour comparer le revenu du bailleur. À qui on assure un taux d'occupation élevé. C'est un des, ouais. des grands arguments aussi.
Oui, c'est pas forcément parce que sur le marché traditionnel, la possibilité de rester quelques semaines ou deux, trois mois dans un logement est toujours assez problématique. Hein. Même en colocation, c'est un turnover qu'on ne recherche pas forcément dans un bien traditionnel, sur le marché traditionnel.
Mais si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à ça, il y a quand même l'idée aussi... dans le cas du co-living, comme on a de toute façon plusieurs personnes qui occupent le logement, on divise le risque de vacances en quelque sorte par le nombre d'occupants. Donc c'est aussi une manière de minimiser le risque de ce point de vue-là.
Ouais. Alors on va venir après à la question de l'encadrement juridique de ce nouveau mode de vie. On ne peut pas vraiment le décrire comme ça, parce qu'il existe depuis longtemps, comme vous l'avez mentionné, dans d'autres grandes villes. D'ailleurs, c'est un concept qui a quoi ? Une vingtaine d'années dans le reste de l'Europe ?
Oui, donc je dirais que le co-living, il peut être situé de manière plus globale parmi une série de transformations qui ont été observées sur les marchés locatifs privés dans différents contextes après la crise financière de 2008-2009. En fait, ce qui s'est passé pour le co-living et d'autres segments qui font partie de ce qu'on appelle l'immobilier de plateforme, c'est qu'il y a eu un boom technologique qui a suivi la crise de 2008-2009, qui a permis de créer de nouvelles opportunités d'investissement en se positionnant comme un nouvel outil d'accumulation finalement, et donc de créer de nouvelles classes d'actifs sur les marchés locatif privé. Et donc le co-living, dans cette transformation globale, bah, c'est un segment de niche qui s'est développé dans ce cadre-là. Et de fait, dans des villes comme Londres, par exemple, je dirais que c'est bien implanté depuis, oui, peut-être pas l'immédiate période d'après-crise, mais quand même assez rapidement. Et au Luxembourg, le développement est plus tardif. Moi, c'est ce que moi j'ai pu observer, j'ai peut-être pas une vue exhaustive sur les secteurs non plus, mais en 2007 pardon, et 2017, moi j'ai identifié trois sociétés de co-living qui soit se sont créées ou ont été implantées au Luxembourg. Puis il y a eu un petit boom en 2019 et 2022, et depuis il y a des grandes sociétés internationales comme Habit par exemple qui ont annoncé leur entrée sur le marché local. Maintenant, dans le cas de Habit, je pense que c'était pour un projet qui, me semble-t-il, est à l'arrêt actuellement, un projet à Hovald. Mmh. Donc à voir comment ça va évoluer dans le futur. Mais en tout cas, il y a de plus en plus d'acteurs internationaux qui s'implantent aussi au Luxembourg.
Alors peut-être revenir un petit peu sur le concept un peu plus global, c'est-à-dire que quand on parle de co-living, est-ce qu'on peut s'imaginer, moi par exemple récemment, on en avait parlé, j'étais assez surpris de voir des hôtels par exemple à Barcelone proposer plusieurs étages qui étaient juste dédiés aux étudiants pour des locations un peu plus long terme avec des services sur place, avec des espaces partagés, des piscines, des trucs. Alors bien évidemment c'est pas exactement la même chose, mais c'est quelque chose de similaire. Est-ce qu'on doit s'attendre à l'installation de gros complexes au Luxembourg, ou est-ce que ça se fait aussi dans une maison, le co-living, ça, on voit un peu de tout?
Oui, donc je dirais que ça s'est d'abord développé dans des maisons transformées en chambres, en tout cas au Luxembourg, et il y a maintenant de fait une évolution plus vers ces logiques build to rent, au sens où ce sont des projets qui sont conçus en tant que, moi j'appelle ça même plutôt alors le logement partagé, des résidences de logement partagé, donc ils sont conçus pour accueillir exclusivement des toutes petites unités de logement, soit des chambres ou des studios, avec des espaces partagés et des services, et ces résidences elles sont alors vendues en bloc à un investisseur privé, typiquement des investisseurs institutionnels en fait. Dans d'autres contextes que j'ai pu étudier auparavant, par exemple à Amsterdam, il y avait déjà ce type de développement vers 2014-2015. Mais là-bas, je pense que ça... Bon, j'ai plus l'occasion d'étudier l'évolution du secteur là-bas, mais ça évolue aussi. Et de fait, sur le cas d'Amsterdam, par exemple, le Student Hotel, qui est présent dans tout un tas de pays, était un peu précurseur. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai étudié personnellement, mais que j'ai entendu récemment, qu'ils avaient même été un des acteurs clés dans le façonnement de certaines régulations spécifiques pour pouvoir en fait se faire une place plus importante. Et il y a clairement dans ces résidences-là, clairement elles s'inspirent dans une certaine mesure de ces grosses résidences étudiantes qu'elles ont ouvertes et adaptées à ces fameux jeunes professionnels.
Alors, logiquement, quand on pense à des espaces de co-living qui s'adressent donc à des jeunes actifs ou à des actifs qui resteront au Luxembourg pour généralement, ou du moins dans ce logement pour une durée assez courte, j'imagine qu'ils s'installent généralement autour des pôles économiques du pays, c'est-à-dire Luxembourg et Esch-sur-Alzette.
Oui, donc c'est vraiment là que l'offre se concentre actuellement. En tout cas, c'est ce qu'on a pu observer via cette extraction de données qu'on a faite l'année dernière, qu'on est en train de mettre à jour d'ailleurs. Oui, il y a une concentration dans et autour de Luxembourg-Ville, mais dans une moindre mesure, autour de Belleval. C'est vraiment un pôle secondaire. Et alors, à Luxembourg-Ville, ce qu'on avait observé, c'est que clairement, les quartiers qui ressortaient le plus, c'était soit des quartiers où il y avait une présence, en tout cas attendue, du public cible, assez importante, ou des quartiers où les prix sont tels que ça peut aussi être une stratégie dans le chef des investisseurs pour... pour maximiser le loyer, en fait.
Vous pensez au Kirchberg, vous pensez...
Le Limpersberg ressortait beaucoup dans les quartiers où on retrouvait le plus d'offres. Bonnevoie est un des quartiers qui ressortait le plus, et alors là je pense plus à la présence du public cible, jeune, flexible, mobile, etc. Gasperich était aussi un des quartiers où il y avait une concentration de l'offre.
Alors j'ai pu lire dans la dernière publication du Liser dont vous êtes à l'origine, on est d'accord, que le co-living mettait à l'épreuve le cadre juridique luxembourgeois. On a touché à la question plusieurs fois là déjà, donc est-ce qu'on pourrait peut-être élaborer un petit peu quelle problématique on peut rencontrer dans des espaces de co-living, avec une loi d'ailleurs qui vient d'être revisitée par rapport à la colocation. Qu'est-ce que vous avez pu constater à ce niveau-là?
Mais donc l'idée de ce rapport, c'était vraiment de voir ce qui existe aujourd'hui et voilà, quels sont tous les instruments au sens large qui encadrent le co-living et la location de courte durée aussi d'ailleurs. Et donc pour ça, moi je me suis intéressée à la fois au cadre légal vraiment au niveau national et j'ai regardé les règlements sur les bâtisses et les plans d'aménagement généraux d'une série de communes dans les trois parties du pays. Et alors un élément qui est soulevé tout au long du rapport, spécifiquement pour le co-living, c'est notamment la manière dont les unités de logement sont délimitées et qui, me semble-t-il, peut prêter à confusion quant à la densité d'occupation réelle, au sens où, selon la loi de 2019 qui est le règlement ad hoc qui définit les critères de sécurité, salubrité, habitabilité, etc., pour les chambres meublées, un logement est délimité finalement comme un ensemble de chambres qui partagent la même niche cuisine, séjour et éventuellement salle de bain. Et donc, suivant cette logique-là, si vous avez par exemple une résidence avec un appartement géré en co-living avec 5 chambres, avec 5 occupants différents qui ont chacun leur bail différent, mais cette unité, puisqu'elle partage une grande pièce de vie, ça reste un grand logement. Et donc, le co-living, dans cette configuration-là, des appartements de co-living où vous avez 5, 6, 7, 8 chambres sont considérés comme un grand logement, alors que l'espace privatif que vous avez en tant qu'occupant, alors d'accord, vous avez accès à des espaces partagés, mais votre espace privatif en tant qu'occupant, ça reste votre chambre. Et donc, oui, moi, ça me paraît quelque chose... je trouvais que c'était en tout cas intéressant de simplement en discuter, en fait. Est-ce que c'est une représentation juste de la densité d'occupation réelle, sachant que c'est considéré comme des grands logements, mais chaque occupant d'une chambre de co-living est un adulte avec...
Évidemment.
Voilà. Donc ça, c'était un des points qui était discuté dans le rapport. Un autre aspect important, et là, je reviens peut-être sur cette idée que de plus en plus de sociétés... de co-living combine différents types de produits pour favoriser une mobilité interne et combine notamment des produits de courte durée avec des produits de plus moyenne durée, c'est que pour faire ça, de plus en plus de projets se positionnent vraiment à l'interface entre logement et hébergement, entre logement et hôtellerie. Et moi, j'ai rencontré aussi des acteurs qui seraient en faveur d'une application des règles de l'hôtellerie pour le co-living, mais là, de nouveau, moi, j'ai l'impression qu'il y a un risque quand même lié à ça, c'est que en basculant toutes ces unités-là vers les règles de l'hôtellerie, ben, on les retire du stock de logements disponibles pour de plus longues durées, parce qu'il y a quand même toujours un besoin important,
une pénurie
structurelle de logements de longue durée, et que voilà, que ça puisse... aggraver cette pénurie. Donc ça, je dirais que c'est vraiment deux éléments clés que le rapport discute par rapport à la question du co-living.
Alors, vous êtes allé à la rencontre de certains des acteurs du marché qui développent le co-living au Luxembourg. Vous avez donc réussi à identifier quand même quelques grands acteurs. Vous pouvez un petit peu nous parler de qui sont ces acteurs? Qu'est-ce qu'ils font en dehors de peut-être du co-living? Et est-ce qu'ils ont, parce qu'il y en a certains qui viennent donc de l'international, est-ce qu'ils ont bonne réputation?
Oui, je ne sais pas si je peux émettre un avis sur leur réputation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un acteur local qui est le plus ancien, je dirais, qui a eu quand même quelques petits problèmes dans différentes communes. Qui pour le coup n'a pas souhaité me parler.
C'est pas étonnant.
pour les acteurs plus récents, donc mis à part celui-là qui est le plus ancien, je dirais il y a deux principales sociétés locales, une qui a 10 ans maintenant, l'autre qui a été créée plus récemment, qui pour le moment reste toujours majoritairement active au Luxembourg, un tout petit peu de l'autre côté de la frontière, mais de manière vraiment anecdotique. Après, dans les acteurs internationaux qui aujourd'hui sont actifs au Luxembourg, moi j'ai pu discuter avec une société belge et qui est vraiment une société Bilux, Et une autre société avec laquelle malheureusement je n'ai pas réussi à discuter, c'est une société qui a été fondée à Bruxelles et qui est active maintenant vraiment dans de nombreux pays et qui pour le moment a un portefeuille très très limité au Luxembourg. Ils gèrent quelques maisons à Bonnevoie, mais rien de plus. Et alors par rapport aux grands acteurs internationaux qui ont annoncé leur arrivée, donc typiquement Habit, là j'ai pas eu l'occasion de les rencontrer parce que j'attends aussi de voir un peu si et quand ça se concrétise. Voilà. Et alors à côté de ces sociétés là moi j'ai quand même pas mal parlé aussi avec des sociétés de location de courte durée qui créent parfois des partenariats avec les sociétés de co-living d'ailleurs.
Et comment est-ce qu'on fait du coup, disons que moi je suis un jeune actif à Londres et j'ai envie de venir m'installer au Luxembourg, comment est-ce qu'on tombe sur ces plateformes? Parce que moi personnellement, par exemple les plateformes de co-living, je pense que le marché immobilier, je commence un petit peu à le connaître, mais je ne saurais même pas sur quel site aller quoi.
Oui, bah elles ont leur propre site où en général elles, soit on retrouve toutes leurs annonces ou au moins des annonces type on va dire et elles ont tendance à quand même être présentes sur d'autres plateformes également, soit sur les portails immobiliers classiques ou celles qui font de la location de courte durée, elles sont même présentes sur Airbnb, Booking, etc. Après, par rapport à la visibilité vis-à-vis des expats, il y a deux choses je dirais qui sont, qu'elles font pour se rendre visibles aussi auprès des expats qui arrivent au Luxembourg. Certaines travaillent avec des agences de relocalisation. Maintenant, oui, ça, je pense que c'est surtout vrai pour les sociétés de location de courte durée, peut-être plus que pour les sociétés de co-living. Et surtout... je ne sais pas dans quelle mesure elles ont vraiment réussi à le faire de manière effective parce que ça semblait assez compliqué des échos que j'avais eus, mais il y a en tout cas une volonté très forte de travailler avec les grands employeurs du pays et typiquement avec les grandes sociétés de consultance, vraiment les employeurs internationaux du secteur privé. Et de proposer soit des contrats corporate, soit de se positionner dans le, vous savez, tout le processus d'onboarding des ressources humaines quand ces personnes arrivent, de dire
c'est réglé, on a déjà un logement pour vous.
Si vous regardez l'offre de cette société-là, vous aurez un discount de X sur le loyer.
Alors, vous avez déjà partiellement répondu à cette question, mais je vous la pose quand même. Dans un marché qui peine à se développer depuis maintenant plusieurs années, mais ces trois dernières années ont été assez critiques en termes de construction, est-ce que le co-living peut être, à votre sens, une des solutions pour répondre à la pénurie de logements ou pas du tout?
Ça fait partie de leur positionnement, de se positionner comme une des réponses en tout cas. En répondant à la fois à ce problème de l'attractivité des talents face à la pénurie de logements, en offrant une meilleure rentabilité aux investisseurs sur un marché locatif privé où les rendements sont relativement faibles, mais qui restent néanmoins largement inabordables pour les locataires. Et aussi en proposant cette solution plus flexible sur un marché locatif qui est jugé...
rigide.
Oui, voilà. Donc ça, c'est clairement ce qui ressort de leur discours. Est-ce que c'est une solution? Je pense qu'en tout cas, il faut être conscient de certains aspects. Bon, moi, j'ai eu tendance à formuler ça en termes de paradoxe, en tout cas dans l'intervention que j'ai faite récemment à la Semaine du Logement, où il y a d'abord à la fois cette volonté de... Comme je le disais à l'instant, de se positionner comme un outil d'attractivité des talents, mais en même temps, si seulement des locataires premium, parce que certaines sociétés parlent vraiment de locataires premium sur leur site, peuvent accéder à ce segment, y a quand même un risque d'accélérer certains mécanismes d'exclusion sur le marché locatif privé. Ça, c'est un premier paradoxe, je dirais.
D'autant plus que sur le marché locatif, généralement, ce sont les ménages qui ont un peu moins de moyens, parce que Luxembourg, on recherche généralement, peut-être plus aujourd'hui, mais on recherche généralement à acheter.
Oui, voilà. Oui. Donc, c'est sûr qu'on est, on est toujours sur une société traditionnellement plutôt de propriétaires. Mais en lien avec ça, un autre paradoxe, c'est... Enfin, moi, je le voyais dans vraiment cette idée que dans leur discours, elles se positionnent comme offrant des logements qui permettent d'accroître la productivité des travailleurs parce que ils offrent une expérience hassle-free, sans aucun tracas, parce qu'on est dans une communauté avec une communauté d'entre-soi, finalement, avec des travailleurs qui ont le même profil et donc ça permet de créer du réseau, etc., etc. Mais... comme vous venez de pointer la question de la société de propriétaires, on peut quand même se poser la question si il n'y a pas un risque aussi que ce discours cache l'émergence de nouvelles formes de précarité, au sens où dans le contexte dans lequel on est ici, où le logement devient de plus en plus un mode d'accumulation, est-ce qu'en ayant un loyer qui reste quand même élevé et où on est aussi dans cette forme de temporalité permanente, on est encouragé à ce turnover important, est-ce qu'à un moment ça ne crée pas de nouvelles barrières, de nouvelles formes de précarité? C'est une question ouverte, mais en tout cas c'est une inquiétude que j'aimerais bien aussi creuser plus dans la suite du projet. Et alors un dernier élément de paradoxe pour discuter cette question de solution ou pas solution, c'est la question de il y a certains sites où c'est même assez évident, où vous allez sur l'onglet locataire, il est mis, on vous offre une solution plus abordable que si vous deviez vous débrouiller par vous-même, et puis vous allez sur l'onglet investisseur et on dit ah mais vous aurez une rentabilité ultra optimisée parce que on minimise la surface, on maximise le taux d'occupation, et donc c'est quand même un peu paradoxal. Vous pourriez dire que c'est le jeu du marché, mais on peut voir ça comme un peu peut-être, je ne sais pas.
Je relance parce que vous vous êtes intéressé quand même à tout ce qui est le cadre juridique du marché locatif privé au Luxembourg. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas vraiment de surface minimale qui est fixée par la loi au Luxembourg pour une chambre.
Si, c'est 9 mètres carrés dans la loi 9 mètres 2019.
Carrés. D'accord. Donc logiquement, le co-living doit s'y tenir.
Oui, maintenant, en général, comme ils sont sur un standing assez élevé, de ce point de vue-là, c'est généralement pas vraiment le problème. Je dirais que vraiment sur la question du respect de ce type de critères d'habitabilité, l'autre côté du spectre, les chambres meublées informelles, les chambres meublées à café, présentent sans doute bien plus de problèmes. Mm-hmm. Vraiment, sur ce critère-là spécifiquement. Oui, maintenant, pour revenir à la question de la manière dont on délimite une unité de logement, c'est plus le fait de présenter ça en termes de planification urbaine comme des grands logements, alors que chaque occupant individuellement a un espace privatif qui est celui de la taille d'une chambre.
Oui, non, parce que vous parliez de minimiser l'espace et de maximiser le rendement, c'est pour ça que je me suis dit que la question se justifiait.
Dans ce sens-là, oui, de maximiser le nombre d'occupants sur une certaine surface, oui.
Et alors pour boucler la boucle, j'ai une question un peu plus globale sur l'effet et les implications que pourrait avoir le co-living sur le marché locatif luxembourgeois. Est-ce que ça peut influencer le niveau des loyers, l'offre éventuellement, ou même donner des idées aux investisseurs locatifs luxembourgeois?
Bah, c'est sûr que dans la mesure où le rendement proposé est meilleur que sur le marché locatif traditionnel, je peux imaginer que... ça peut être assez tentant pour les investisseurs en général, et donc avoir un effet, si pas d'augmentation des prix, au minimum de plus grande instabilité, il me semble. Après, voilà, je ne suis pas économiste, mais moi j'ai le sentiment que c'est un risque qu'il faut quand même garder à l'esprit.
Alors effectivement, je souligne quand même la question des investisseurs locatifs au Luxembourg, parce que c'est vraiment devenu un problème ces trois dernières années avec l'augmentation des taux et le très très peu de constructions qui ont été, si je me trompe pas, on en discutait dans le dernier épisode, on avait une estimation à autour de 1000 appartements VFA qui avaient été achetés et qui seront construits dans les trois dernières années, ce qui est trois fois inférieur à la moyenne qu'on avait avant par an. Les investisseurs locatifs, s'ils sont encore intéressés, s'ils s'intéressent encore au marché luxembourgeois, il y a des chances qu'ils aillent plutôt vers le co-living que sur du logement traditionnel. Et donc, ça posera un nouveau problème dans le développement du parc immobilier luxembourgeois qui est déjà très restreint.
Mais après, sur les appartements vraiment VFA ou récents, moi j'ai l'impression que c'est peut-être plus souvent mis en location de courte durée l'appartement entier, je veux dire. Parce que c'est quand même pas si facile d'avoir une configuration adaptée pour du co-living. Et donc, moi j'ai quand même l'impression que du côté vraiment du co-living en tant que tel, l'évolution va être plus vers des investisseurs professionnels. Et qui achètent alors des blocs entiers. Parce qu'il y a eu hein, des cas de... Si vous prenez le projet Gravity, par exemple, à Differdange, là, chaque unité a été vendue à la pièce à des investisseurs privés. Et à l'époque, c'était...
Ils le font même dans des hôtels. Hein, l'hôtel dans le nord du pays, à Weisswampach, qui vend ses chambres. Hein, enfin, qui les met sous un modèle d'investissement avec une occupation par an, etc. Donc, ouais, on voit quand même une diversification des modes d'investissement, parce qu'au Luxembourg, les investisseurs locatifs, généralement, c'est des privés. Hein. Ils ont le moyen, donc ils ont acheté un, deux, trois appartements au fil des années. Aujourd'hui, c'est plus très intéressant, donc ces alternatives peuvent retirer, j'ai envie de dire, des logements qui auraient pu être construits traditionnellement sur le marché luxembourgeois. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Constance, je vous remercie encore une nouvelle fois d'avoir pris le temps de venir en studio. À nos auditeurs, on se retrouve très vite pour évoquer un sujet brûlant. Le marché immobilier luxembourgeois est-il encore attractif? J'ai plusieurs experts qui vont venir essayer de répondre à cette question. Je vous remercie. À bientôt.
Merci à vous.